Bienvenue dans l'émission Sérendipité, une émission de recommandations de podcasts et autres médiums culturels, mais surtout d'infinies digressions. Aujourd'hui, je vais parler de Taylor Swift, du dernier album de Beyoncé et un peu de l'enfance de Jimmy Rogers. Je vous rassure, c'est une émission qui parle bien de podcasts et pas de musique, mais ce mois-ci, j'ai fait une petite fixation sur la musique country, et tout a commencé par la découverte d'un podcast qui parlait de Taylor Swift. Le podcast s'appelle très basiquement Taylor Swift, le monde, ma fille et moi, et il est depuis quelques temps en tête de gondole sur les recos de Radio France.
Vous écoutez Taylor Swift, le monde, ma fille et moi, épisode 1,
un anniversaire
et un concert.
Bon, j'ai cliqué. Ça m'avait l'air approprié pour débrancher mon cerveau. Franchement, j'ai bien aimé le docu de Xavier Yvon et de Sacha, sa fille, même s'il est réalisé d'un point de vue situé un peu léger. Je m'explique. Tout le monde ne va pas s'identifier à Xavier ou à sa fille. Xavier Yvon, c'est un journaliste qui a été auparavant correspondant aux États-Unis, un tantinet bobo, et sa fille Sacha semble avoir eu une enfance gâtée, passée en partie à New York, ce qui lui donne un accent terriblement insupportable tout du long des épisodes. Mais elle est aussi hyper attendrissante, surtout quand elle nous parle du patriarcat du haut de ses 13 ans. Elle et lui s'offrent quand même le luxe de partir faire un road trip de 10 jours aux États-Unis dans le but de réaliser un podcast sur l'idole de Sacha, Taylor Swift.
L'affiche ?
Ouais, c'est le musée de Johnny Cash.
C'est qui
Johnny Cash ? Taylor Swift à côté, c'est la gnognotte.
La gnognotte ? C'est un podcast sur Johnny Cash alors.
Voilà, on part pas d'un super bon pied pour moi, mais je tente ma chance parce que, comme Xavier, je ne sais pas qui est Taylor Swift. Quoique lui, il a l'air déjà plus renseigné que moi. Chaque épisode ne dure que 30 minutes, c'est léger et on apprend plein de choses de manière assez ludique. J'étais assez épatée qu'elles aient réussi à faire autant de rencontres significatives dans plusieurs villes des États-Unis en l'espace de seulement 10 jours. Franchement, chapeau.
Taylor Swift broke her silence on politics over the weekend, publicly backing two Democrats in Tennessee.
Taylor Swift is taking her first political stand, backing Democrat Phil Bresden.
Taylor Swift's jumping into politics. What do you have to say to her?
Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay?
Alors j'ai écouté entre autres parce qu'on était en septembre, et c'était le moment où on n'arrêtait pas de parler de Taylor Swift. Je comprenais que c'était une star mondiale, qu'elle faisait soi-disant trembler le camp des Républicains, car elle venait d'annoncer son soutien à Kamala Harris. En fait, son annonce faisait suite à une controverse où Trump avait posté sur les réseaux sociaux des images générées par une intelligence artificielle la montrant en habit d'Uncle Sam, invitant à voter pour Trump. Ou encore d'autres photos des Swifties arborant des t-shirts en soutien à Trump. Ah ouais, les Swifties, je l'ai appris dans le podcast, c'est le nom donné aux fans de la chanteuse. Si Trump a fait ça, c'est que les médias se sont rendus compte que la popularité de la chanteuse était telle que son éventuel engagement politique pouvait faire pencher la balance en faveur de l'un ou l'autre des candidats. Ce qui est intéressant chez Taylor Swift, c'est qu'elle a un background de musique country qui est LE style musical prisé par une Amérique blanche et conservatrice. C'est une jeune femme cis, blanche, chrétienne, blonde aux yeux bleus, mince, au visage qui correspond aux critères de beauté standard, et elle a commencé son ascension musicale très jeune en embarquant carrément ses parents à Nashville, qui est un peu la capitale de la musique country. Et plus tard, elle s'est tournée vers la pop, ce qui a élargi et rajeuni son public. Bon, en fait, c'est une jeune femme bien sous tout rapport qui, à la base, adopte les codes et plaît à une Amérique blanche, riche et puritaine. Je comprends en écoutant le podcast qu'elle a un peu l'étoffe d'une Britney Spears, mais que, contrairement à cette dernière, elle s'est affranchie du système qui l'a propulsée au rang de star. D'abord, elle s'en affranchit de manière économique. En fait, elle s'est brouillée avec son label après que celui-ci se soit fait racheter et du coup, est revendue aussi les droits de ses 6 premiers albums. Alors pour plein de raisons différentes, elle n'était pas du tout d'accord. Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a réenregistré l'intégralité de ses chansons afin de reprendre le contrôle sur les ventes de ses disques. Dorénavant, vous pouvez choisir d'écouter la Taylor version au lieu de la version de l'époque. Et ainsi, vous êtes sûr que les sous générés par cette écoute lui seront reversés directement. Le second pied de nez à l'industrie, c'est lorsque la petite star qui ne fait que chanter commence à s'intéresser à la politique et décide de passer outre les recommandations de son entourage qui juge que ce n'est pas son rôle de s'impliquer dans les affaires politiques. En fait, vu son physique et sa musique, on aurait vite fait penser qu'elle est plutôt empreinte d'idéologie conservatrice. Mais en 2018, horrifiée par la montée des idées d'extrême droite, portée entre autres par la candidate Marsha Blackburn qui se présente aux élections dans le Tennessee, ça c'est l'état dans lequel elle va voter, elle va prendre position de manière très claire sur les réseaux sociaux.
She thinks that if you're a gay couple, or even if you look like a gay couple, you should be allowed to be kicked out of a restaurant. It's really basic human rights, and it's right and wrong at this point, and I can't see another commercial disguising these policies behind the words Tennessee Christian values. Those aren't Tennessee Christian values. I live in Tennessee. I am Christian. That's not what we stand for. I need to be on the right side of history, and if he doesn't win, then at least I tried.
Ensuite, en 2024, vers la fin de la campagne présidentielle, elle confirme son soutien à la candidate démocrate Kamala Harris et s'insurge contre la politique d'extrême droite de Donald Trump. Elle ne cesse de soutenir les droits LGBTQ, que ce soit dans la vie publique ou à travers son art. J'ai découvert la chanson « You Need to Calm Down » et dans le clip, on la voit aux côtés de plusieurs personnalités queer de notoriété publique. You are somebody that I don't know. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Sachez que seulement 24 heures après sa prise de position, 400 000 électeurs et électrices américaines se sont inscrites sur les listes électorales. C'est pas rien quand même. J'ai bien aimé le podcast car à travers les 6 épisodes, on découvre les différentes facettes de Taylor Swift qui la rendent intéressante. J'ai particulièrement aimé le 3e épisode puisque c'est celui dans lequel Xavier et Sacha vont visiter l'université d'Harvard pour rencontrer une certaine Stephanie Burt. Stephanie Burt, c'est une professeure, écrivaine et spécialiste de poésie. Elle est d'abord connue car c'est la première enseignante transgenre de l'université. La deuxième raison de sa popularité, c'est qu'elle donne un cours sur Taylor Swift auquel 200 étudiants et étudiantes ont assisté. Dans son cours, elle propose d'étudier des albums de Taylor Swift de la même manière que si c'était du Shakespeare. Ça dépoussière un peu Harvard qui, selon elle, n'est pas obligée d'être cantonnée à l'étude des vieux poètes disparus.
To be or not to be. Not to be.
À un moment donné, elle utilise une métaphore avec un écureuil et un wombat pour faire comprendre pourquoi proposer un cours sur Taylor Swift, c'est légitime, même au sein d'une prestigieuse institution comme Harvard. Rien que pour savoir ce que c'est un wombat, vous devez écouter le podcast.
J'adore étudier Taylor. Je pense que sur le plan éthique, ce serait problématique, dans un département d'anglais, de donner un cours uniquement dédié à Taylor. Donc ce n'est pas ce que je fais. Moi, je crée des liens entre cette grande artiste, ultra connue, et d'autres œuvres d'art qui méritent selon moi d'être étudiées et sont beaucoup plus anciennes ou moins connues, ou les deux.
Selon elle, une des façons de faire découvrir aux gens des œuvres qu'ils n'auraient pas connues autrement, c'est de les mélanger à des choses qu'elles adorent. Alors j'avoue que, après l'écoute du podcast sur Taylor Swift, j'ai regardé 2 documentaires sur elle. Le premier, on le trouve sur Netflix, et le second peut se trouver sur Arte ou encore la médiathèque numérique. Je me suis rendu compte que j'étais un peu intriguée par la musique country, notamment parce que j'y connais rien. Du coup, j'ai réécouté une série d'épisodes de l'émission de musique Very Good Trip, présentée par Mishka Assayas sur France Inter. Franchement, j'adore cette émission. Elle me fait découvrir plein de musiques différentes. Mishka Assayas, il fait un peu vieux crouton, mais ses missions, elles sont hyper modernes et fraîches. Je dois vous avouer que c'est lui qui m'a fait découvrir Lana Del Rey. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Bon, je digresse, mais c'est normal, le titre de l'émission s'appelle « Sérendipité ». Alors gros teasing, j'expliquerai ce que ça veut dire sérendipité dans le deuxième épisode. Je reviens à la musique country, qui pour moi est un peu le style musical des Américains blancs, arriérés, racistes assumés. Ouais, bon, je sais, gros cliché, mais quelque part ce cliché il est vrai, puisque à partir du moment où la musique country est devenue une industrie florissante et un produit à vendre, alors tous les musiciens mis en avant, que ce soit à la radio puis plus tard à la télé, étaient surtout des artistes blancs. Mais à la base, la musique country n'est pas uniquement blanche et conservatrice. Il y a cette phrase un peu qu'on dit « la country, c'est la soul des blancs au contact avec les noirs » et inversement, « la soul, c'est la country des noirs au contact avec les blancs ». Sous-entendu, tous les genres se sont influencés, c'est le principe de la musique que de se copier, de se mélanger. Donc non, la country, c'est pas une musique seulement inventée par les blancs pour les blancs. En 2024, c'est un peu l'année où tout le monde parle de country. Du coup, j'ai pu enchaîner avec une série documentaire produite par Arte en 9 épisodes sur l'histoire de la musique country aux États-Unis entre le début des années 1900 jusqu'aux années 90. Ce docu a été réalisé par Ken Burns et peut se voir aussi sur le site de la médiathèque. Même si comme moi vous êtes un peu réfractaire à ce style de musique, c'est vraiment intéressant de découvrir les images et enregistrements d'archives. On apprend l'histoire de ce style musical à travers une histoire plus globale de l'Amérique. On découvre l'essor de la radio et de l'industrie du disque, et puis l'émergence de certaines stars comme la famille Carter ou encore Jimmy Rogers. Jimmy Rogers, vous avez certainement déjà entendu son nom, et si je vous passe... vous reconnaîtrez son fameux yodel. Pour étayer un peu ce que j'ai évoqué à propos des racines de la musique country, je vous resitue Jimmy Rogers. À l'époque, c'était une grosse star. Et Jimmy Rogers, adolescent, quand il avait 13 ou 14 ans, il travaillait avec son père, qui était contremaître, et s'occupait de l'entretien des voies de chemin de fer. Jimmy était employé comme waterboy, ça veut dire qu'il apportait de l'eau aux ouvriers et qu'il s'occupait de poser et entretenir les rails. En travaillant au contact des ouvriers noirs et des travailleurs immigrés, il s'est imprégné de plusieurs cultures musicales. On peut s'imaginer que ce serait de là que viendrait le fameux yodel. C'est pas du tout un truc qu'il a inventé, hein. C'est un chant qui vient du Tyrol et aussi de la Suisse. Bon, pas de digression sur le yodel aujourd'hui. L'émergence de la musique country vient en fait de la fusion entre plusieurs populations qui font de la musique populaire. L'autre exemple criant, c'est la popularisation du banjo, qui est un instrument qui vient d'Afrique, qui est amené par les esclaves et joué par les Noirs, et qui a intéressé sur le tard les Blancs. C'est un instrument qui est largement utilisé dans la musique country, et c'est un exemple concret des influences entre les différents genres de musique provenant de différentes cultures et populations qui se côtoient. Cependant, si les uns et les autres intègrent qui le banjo, qui le violon, les Afro-Américains, eux, ont été complètement invisibilisés dans l'histoire de la musique country. L'esclavage était certes aboli depuis quelques années, mais la ségrégation perdurait et le racisme était ancré comme jamais. Ken Burns, il a cette phrase un peu maladroite où il dit que la ségrégation est présente partout dans la société, sauf dans la musique, mais c'est complètement faux. Par exemple, les chants populaires chantés par les travailleurs noirs ont été repris par des artistes blancs qui les interprétaient à la radio et sortaient même des disques. À l'époque, en fait, on va vendre telle catégorie de musique à telle population. Le hillbilly était comme réservé à une population blanche, alors qu'on voit la naissance des Race Records qui étaient destinés aux Afro-Américains. Le jazz a connu évidemment le même sort à l'époque. Les artistes blancs se réappropriaient les chansons des artistes noirs afin d'en générer du profit. Bref, vous l'avez compris, tout au long de l'histoire, la country a été whitewashée. Je trouve que Ken Burns occulte une histoire de la société américaine puisqu'il n'explique pas que le racisme ambiant façonne l'âme de la musique country. Il insiste certes sur les racines de ce style de musique, mais il ne dénonce pas l'orientation qu'elle a pu prendre. En fait, c'est une évolution qui est façonnée par le contexte social et racial de l'époque. Par exemple, il parle de Fiddlin' John Carson, qui est un des pionniers de la musique country. Mais il ne dit pas qu'il a écrit nombre de chansons ouvertement racistes en faisant des références au Ku Klux Klan, ou encore qu'il a écrit une murder ballad qui s'appelle « Ballad of Little Mary Fagan ». Alors aussi étrange que ça puisse paraître, une murder ballad, c'est une chanson qui raconte un crime. C'est un sous-genre de la musique folk et country, et comme on peut s'imaginer, les chansons racontent souvent de manière sordide des féminicides, mais qui étaient certainement appelés des crimes passionnels à l'époque. Dans Ballad of Little Mary Fagan, Fiddlin' John Carson raconte le meurtre de Mary Fagan, qui était une jeune ouvrière de 13 ans. Et oui, parce qu'à l'époque, les enfants pouvaient travailler à partir de l'âge de 10 ans. Bref, Mary Fagan est retrouvée assassinée au sous-sol de l'entreprise de crayons pour laquelle elle travaille. et on soupçonne rapidement un certain Leo Frank. Leo Frank, c'est le directeur de l'entreprise et c'est aussi le dernier à l'avoir vu lorsqu'elle vient chercher sa paye. Pourquoi Leo Frank ? Parce qu'en fait, il est juif et qu'à l'époque, en plus d'être raciste, les États-Unis sont aussi antisémites. Du coup, le procès de Leo Frank déchaîne les foules. L'antisémitisme et le racisme ambiant vont même conduire au lynchage de Frank, qui avait pourtant fini par être gracié. Alors je reviens en arrière si vous avez loupé l'association d'idées, mais le musicien qui a fiddling John Carson a écrit une chanson qui relate l'histoire supposée du meurtre. On ne sait pas trop quelles étaient ses intentions, mais la chanson est devenue un outil de propagande antisémite et raciste. Je recommande d'écouter l'épisode de Sarah Lynch sur YouTube qui s'appelle « Can Songs Kill? The Leo Frank Trial and the Ballad of Little Mary Fagan ». Elle reprend les paroles de la chanson pour raconter le meurtre, le procès et revenir sur le contexte dans lequel la chanson a été écrite. Il y a aussi l'émission « Une histoire particulière » qui a consacré 2 épisodes de 30 minutes sur le procès de Leo Frank.
Une histoire particulière. Pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, le lynchage est une pratique de justice expéditive instaurée par Charles Lynch, planteur de Virginie et juge de paix. Cette pratique se répand lors de la conquête de l'Ouest, là où les instances judiciaires étaient souvent absentes. Elle prend une nouvelle dimension avec la loi de Lynch qui désigne toute forme de violence par laquelle une foule, sous prétexte de rendre la justice sans procès, exécute un présumé coupable, généralement par pendaison. Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin vont vous expliquer tout cela dans l'histoire qui suit.
Revenons à nos moutons. Je déplore que Ken Burns occulte une partie du contexte social, racial et politique dans lequel émerge la musique country. Bon, j'ai pas de PhD en histoire de la musique américaine, mais ce que j'ai compris, c'est que les différents styles de musique se chevauchent, s'inspirent les uns les autres, et que la country n'est pas un pur produit de l'histoire blanche américaine, mais que c'est un croisement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est fait largement appropriée par la population blanche, même à l'heure actuelle. Il n'y a qu'à penser au dernier album de Beyoncé qui s'appelle Cowboy Carter. L'album est une réponse à l'accueil pas très chaleureux qu'elle avait reçu de la part du monde de l'industrie musicale jusqu'aux critiques racistes qui avaient fusé en 2016 à propos de sa chanson Daddy Lessons aux sonorités résolument country. J'adore le choix du titre Cowboy Carter. C'est un clin d'œil à la famille Carter qui était un groupe de musique country emblématique des années 30, mais Carter c'est aussi son nom d'épouse. C'est le second album d'une trilogie qu'elle a commencé avec Renaissance, dans laquelle elle explore à chaque fois les racines noires d'un genre musical différent. Par exemple avec Renaissance, c'est un album de house et de disco dans lequel elle rappelle que la musique house est née dans les communautés queer et noires, notamment en évoquant tout l'imaginaire du ballroom. À propos de ballroom, je recommande d'écouter la série intitulée Ballroom du podcast Faya, proposée par l'agence Sonic. America has a problem. Et puis bien sûr, si c'est pas déjà fait, la première saison de la série Pause. Je pars dans tous les sens, mais c'est normal, encore une fois, cette émission s'appelle Sérendipité. Donc, la réappropriation des codes de la culture Far West par Beyoncé, c'est politique. En posant sur la pochette en habit de cow-boy assise en Amazon sur un cheval brandissant le drapeau américain, elle s'inscrit dans la volonté de réinstaller la figure du cow-boy noir dans notre imaginaire, alors que dans l'inconscient collectif, le cow-boy, c'est un homme blanc. Faire un album de country, c'est pour elle l'occasion de réintégrer les racines noires au sein de la culture country. Pour approfondir sur la genèse de l'album de Beyoncé, de manière rapide et efficace, vous pouvez aller regarder un épisode d'une web-série présentée par André Manoukian. Ouais, c'est mon Mishka Assayas numéro 2, dans le genre crouton, mais stylé. Il fait un super condensé autour de la naissance de cet album, comment il a pris forme et pourquoi c'est politique. Ensuite, libre à vous d'aller creuser plus loin. Et voilà, Sérendipité, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode. There's a man in my house, he's so big and strong. Goes to work each day and he stays all day long. Comes home each night looking tired and beat. He sits down at the dinner table and has a bite to eat. Never a frown, always a smile. When he says to me, how's my child? Say that I've been studying hard all day in school, trying very hard to understand the golden rule. I think I'll color him father. I think I'll color him love. I'm gonna color him father. I think I'll color him just ain't very sweet. I love this man and I don't know why, except I'll need his strength until the day I die. I think I'll color him father. I'm gonna color him love. I've got to color him father. I think I'll color him. Seven kids couldn't have gotten very far. She said she thought she could never love again. And then there he stood with that big wide grin. He married my mother, he took us in. And now we belong to the man with that big wide grin. I've got to color him, father. I'm gonna